Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour,
welcome in Comme d'Archi podcast season 3.
Saison 3, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence ECDM. Bonjour Emmanuel Combarel.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence, qui est assez connue, créée après avoir été lauréat des albums de la Jeune Architecture en 93, puis de la Villa Médicis hors les murs en 96. L'agence, je cite, « mène un travail de réflexion sur la définition du cadre de vie au travers du projet architectural. Le paysage, les usages, les modes de vie, la question de la matérialité sont autant d'éléments structurants des projets avec la volonté de réaliser une architecture simple, sobre, directe, qui s'inscrit dans les thématiques environnementales et sociétales actuelles sans a priori, nostalgie ou préoccupation stylistique. » On va commencer par le début, votre début. Quel est votre parcours, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études?
Alors en fait, être architecte, c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi. La sonorité du mot m'avait plu quand j'étais enfant, à 3-4 ans, comme ça. On me demandait qu'est-ce que je voulais faire. J'avais entendu le mot architecte. Je crois que c'était un mot qui avait une sonorité extraordinaire, qui était un mot qui claquait, qui était nerveux. Et finalement, je ne sais pas ce que c'était qu'être architecte, mais l'idée d'habiter ce mot me plaisait. Et finalement, c'est quelque chose qui a excité ma curiosité. Donc, comment j'en parlais, il y avait du répondant et on me parlait parfois d'architecture de façon très commune, enfin sans aucun spécialiste dans ma famille autour de ça. Mais bon, on se dit, tiens, il s'intéresse à l'architecture, on va parler d'architecture d'une façon un peu anecdotique. Et puis, ma conviction s'est renforcée. Et finalement, d'une façon assez naturelle, je suis rentré dans une école d'architecture. Donc, je suis rentré à l'école de Versailles, où j'ai étudié pendant un an. Et finalement, je ne me suis pas plu à Versailles. Et je suis allé à Quai Malaquais, à Paris 1, où j'ai continué mes études avec les anciens d'un mouvement post-communiste, plus avec une démarche sociétale de l'architecture qui m'a, avec assez post-68 art en fait.
Qui vous a marqué?
Ouais, qui m'a intéressé. Beaucoup de liberté, beaucoup de contradictions aussi. Et puis quelques personnalités fortes. Justement, on parlait tout à l'heure de matière dans l'introduction. Je travaillais avec des ingénieurs comme Louis Fruetté, qui était donc un collaborateur de Jean Prouvé. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à la production de Jean Prouvé. Donc, j'ai travaillé de façon assez étroite avec Louis Fruetté. J'ai fait des concours avec lui.
Voilà, c'était donc un grand ingénieur du métal.
C'est ça, exactement. Ouais. Mmh. Ouais. Je l'ai perdu de vue. Je l'ai retrouvé. Et c'est quelqu'un qui était très discret, comme toute cette génération. Enfin, cet environnement Prouvé qui était finalement très impliqué et assez discret. Et voilà, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça m'a intéressé. Et puis, d'autres personnalités qui étaient en fait, sous une forme de crise qui me posait problème, c'était donc la modernité était clairement terminée. Il y avait une postmodernité qui s'imposait. J'y trouvais pas tellement mon compte. Moi, j'ai adoré les bars, les tours, l'utopie qui était portée par la modernité. Et finalement, ce travail plus stylistique me paraissait un peu dérisoire, un peu superficiel, et j'avais un peu de mal à comprendre vers quoi se dirigeait l'architecture, mais
C'est... Oui, d'ailleurs, Bofill était un des vecteurs de la postmodernité.
Voilà, Bofill qui vient d'être décédé, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, en fait. Bon, évidemment, Waldenstedt, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui a marqué, je pense, l'histoire de l'architecture, mais d'autres projets comme le Château Noir, enfin, ou la Casa Negro, donc des villas de vacances en bord de mer, qui étaient sur des combinatoires extrêmement savantes, avec des plans magnifiques. Il a fait des très, très grands projets, des projets... il s'est sans doute plus intéressé à la figure de style, à la proximité avec le pouvoir, et peut-être moins à un travail plus centré sur l'architecture, en tout cas le milieu architectural. Mais cela dit, ce qu'il a fait à Marne-la-Vallée est aussi une très belle opération. C'est vrai que quand on visite les appartements, puisqu'on reparle le logement, c'est quand même des trois pièces qui faisaient 75 mètres carrés, qui étaient tous traversants, qui avaient des vraies qualités d'usage. C'était pas n'importe quoi non plus. Et c'est vrai que c'est posé la question de savoir s'il fallait le démolir. Et finalement, on a gardé Marne-la-Vallée, même si c'était très critiqué. Ça reste quand même comme une opération emblématique. C'est pas sa meilleure opération, mais c'est pas une opération inintéressante. Mmh.
Donc, vous terminez vos études à Malaquais, hein, c'est
ça ? À Malaquais, oui.
Et après, vous vous mettez tout de suite à votre compte ou vous travaillez pour des agences ou comment ça se passe ?
Non, en fait, après, ça a été un peu compliqué. Je ne m'étais pas vraiment préparé à travailler. J'étais un peu surpris. Il a fallu que je commence à gagner ma vie. Et j'ai fait quelques agences dans lesquelles je ne me suis pas franchement plus. Je me suis demandé si c'était vraiment ça. Enfin, j'étais un peu surpris par le monde du travail en architecture. Et puis, au bout d'un an, je suis rentré chez Jean Nouvel. Et là, je me suis passionné pour mon travail, les possibilités qui m'étaient offertes à l'agence. Énormément d'autonomie, beaucoup de liberté, une très grande recherche. Et donc, ça a été vraiment un travail très enthousiasmant. Je suis resté 7 ans. Et je faisais aussi des concours d'idées en parallèle. On a eu avec Dominique les albums de la chaîne Architecture en 93 et j'ai démissionné à ce moment-là.
Et Dominique Marek, vous l'avez connue chez Jean Nouvel ?
Voilà, elle est passée chez Jean Nouvel, elle a fait une charrette. Il y avait beaucoup de gens qui passaient en fait, parce qu'à l'époque, on faisait des charrettes, c'est-à-dire qu'on produisait du dessin rotring et donc il y avait des rendus qui demandaient énormément de monde. Donc, il y avait des moments où il y avait des quantités d'architectes qui débarquaient pour rendre des projets. Donc, c'était très, très vivant. C'est quelque chose qui est maintenant très, très différent, puisque l'informatique a changé fondamentalement nos manières de travailler.
Et donc, vous connaissez Dominique Marek. Vous avez donc gagné, vous avez été lauréat. Et hop, vous montez votre structure.
Oui, en fait, on est lauréat. Finalement, j'étais obligé de faire un choix. Dominique a continué à travailler chez Claude Vasconi. Moi, j'ai bricolé, j'ai essayé de monter ma structure. C'était très compliqué. En plus, bon, c'était une période de crise, mais j'ai toujours l'impression d'avoir vécu dans les périodes de crise. Donc, il y avait une espèce d'inconfort. On a mis beaucoup de temps en fait, à trouver des projets qui permettaient d'avoir une réflexion et des prises de position personnelles. Bon, donc, on a fait beaucoup de projets de transformation, de logements sociaux. C'était plutôt des projets techniques qui pouvaient être intéressants, mais où il n'y avait pas réellement d'architecture. C'était des projets de transformation d'habitat, des choses comme ça. On a mis beaucoup de temps avant d'accéder à une commande d'architecture. Les albums, à l'époque, étaient un petit peu en bout de course, donc ça n'a pas vraiment aidé. Et puis, on a fait une résidence sociale pour du logement étudiant à Argenteuil. Et c'est un projet qui nous a passionnés. Et à la fin, il y a eu une espèce de... pas d'engouement, mais en tout cas, ça a intéressé un certain nombre de journalistes qui en ont pas mal parlé. Et donc, le projet était nominé à l'écart d'argent. Enfin, il y a eu un certain nombre de...
Oui, donc très vite, vous jouissez d'une reconnaissance.
Ça nous a permis d'exister un peu, ouais. Ouais, c'était pas mal.
L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? De savoir avoir votre agence.
Alors, en fait, être architecte, c'est un métier fantastique où on s'invente ses propres pratiques, en fait. Et chaque architecte est obligé de définir son champ de réflexion, son champ de travail, même si, en final, on fait tous des bâtiments, du logement, des bureaux ou des médiathèques, on a tous une démarche qui nous est propre, qui nous est singulière. Finalement, c'est compliqué d'être architecte parce que c'est compliqué de comprendre le rôle social qu'a l'architecte. Et quand je sortais de l'école, j'avais appris un certain nombre de choses. J'avais appris à connaître de l'architecture, à rentrer dans l'histoire de l'architecture, en fait dans la culture architecturale. Mais je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'être architecte. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir une agence. J'avais du mal à comprendre ce que pouvait être la traduction d'un dessin en une réalité. Et ça, c'est fait avec le temps. Finalement, pour comprendre ce que c'est qu'être architecte, ça met un peu de temps. En tout cas, moi, j'ai mis du temps. Et puis, c'est toujours des questions qui m'interrogent. Je pense que l'idée de savoir ce qu'on attend d'un architecte, quelle autonomie peut avoir un architecte, en quoi l'architecte peut avoir une inflexion sur son environnement, c'est des questions qui se nourrissent avec l'expérience, avec le temps. Mais en même temps, il faut un peu de naïveté pour démarrer. Donc voilà, j'avais aussi
un peu... Vaut mieux être naïf, c'est ça?
Oui, c'est pas mal d'avoir des envies, plus que des contraintes ou en tout cas des schémas tout faits.
Alors là, on a parlé de votre parcours. Peut-être que vous voulez compléter à propos de Dominique. Vous êtes un peu son porte-parole ou pas?
Alors, est-ce que je suis son porte-parole? Je vais essayer. Avec Dominique, l'idée qu'on travaille ensemble s'est imposée très rapidement. L'idée qu'on fasse une agence ensemble s'est imposée à nous. Après, on a des manières de travailler très, très différentes, des approches très différentes. Et puis, on a eu sans doute un parcours, justement, un parcours académique chacun singulier. Et ce qui a mis un peu de temps, ce qui a été très intéressant, c'est d'apprendre à travailler ensemble et de trouver chacun... son registre, son champ de réflexion propre, et qu'il ne soit pas un doublon, mais quelque chose de complémentaire. Donc ça ne s'est pas forcément fait toujours d'une façon complètement limpide, mais quand je regarde ce qui s'est fait, c'était l'apport de Dominique à l'agence est absolument extraordinaire, et notamment sur la question de la matérialité. Dominique s'est beaucoup intéressé à la matérialité, à la mise en œuvre, à la compréhension de la transition entre les matériaux. C'est des choses qui m'intéressaient, mais je n'avais pas saisi l'importance. Et l'architecture, ce n'est pas faire simplement un bon projet, c'est réaliser un bon projet. Et l'architecture, ce n'est pas donc une bonne intention du départ, c'est savoir dérouler cette intention et la nourrir jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation. Et là, c'est une course de fond, c'est très long. Et ce qui marche bien, je pense, entre nous, c'est qu'il y a des relais. À des moments où il peut y avoir un épuisement, il y a l'un ou l'autre qui reprend le travail pour...
qui mobilise son énergie pour qu'il y ait une continuité.
Ouais.
Pouvez-vous maintenant nous raconter l'histoire de vos projets avec à l'intérieur vos projets emblématiques?
Alors, les projets emblématiques, je ne sais pas si on en a. Enfin, j'ai l'impression qu'on a travaillé dans des époques un peu différentes. Donc, l'environnement architectural, mais sociétal aussi, a fortement évolué depuis les 30 ans qu'existe l'agence. Et l'architecture, c'est comprendre une époque et savoir la retranscrire. Alors, ce n'est pas forcément en être un étendard, mais c'est peut-être aussi le retranscrire dans l'esprit critique. Mais en tout cas, on construit avec son époque. C'est un des matériaux de l'architecture. Et d'ailleurs, on comprend et on lit une architecture à travers une époque. Dans l'histoire de l'architecture, ça s'enseigne à travers l'histoire du temps. Et ce qui restera de l'architecture, ça sera qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000, 2020, etc. Et quand on a commencé à travailler, c'est vrai que les projets étaient... très différents. Bon nombre d'exigences de notre époque n'étaient pas présentes. Les questions environnementales, on en parlait, mais elles n'étaient pas structurées dans un projet. En tout cas, c'était certainement pas attendu par très très peu de commanditaires. Et donc, on a beaucoup travaillé, nous, sur des mises en œuvre de béton. Donc, ça nous a passionnés. On a fait pas mal de recherches avec un groupe qui s'appelait Lafarge, qui a disparu maintenant, mais... qui avait un centre de recherche important. Donc c'est Dominique qui s'en est beaucoup occupé, qui a nourri ses réflexions. Et on a fait quelques projets qui ont été assez audacieux, enfin en tout cas assez volontaires sur des mises en œuvre novatrices du béton, sur ce qu'on appelait des bétons, des BFUP, des bétons à très haute performance. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus.
Vous pouvez citer quelques projets ?
Alors bon, il y a le projet de Thiers, qui est donc un centre administratif de bus, qui est en fait un espace tertiaire. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il était très caractérisé. Finalement, c'était un espace dédié aux conducteurs de bus et à la gestion, à l'administration de ces conducteurs de bus. Donc il y avait toute la vie de la RATP qui était dans le projet. Nous, on a beaucoup appris en faisant ce projet. On a commencé parce qu'on nous a proposé de faire un bâtiment de bureaux. Et rapidement, on a travaillé avec le directeur du centre et les syndicats. Ils nous ont dit, mais non, nous, on ne veut pas un bâtiment de bureau. Ils ont commencé à nous raconter leur vie, comment ils vivaient. Parce qu'eux, ils commencent le travail à 4h30 le matin. Ils doivent aller chercher de l'argent pour rendre la monnaie pour les tickets. Il y a des gens qui attendent parce qu'il y a des conducteurs qui sont là pour suppléer s'il y en avait un qui défaillait, etc. Donc, ils commencent à nous raconter leur vie. Puis, on comprend que ce n'est absolument pas un bâtiment de bureau, mais c'est plutôt un bâtiment extrêmement vivant où il y a une partie administrative. Mais il y a des gens qui le traversent, des gens qui vont attendre, des gens qui vont prendre leur café, qui vont prendre leur petit déjeuner, qui vont... la vie est un centre de bus. Et là, le projet prend du retard et c'était vraiment une grande chance. Et pendant plusieurs mois, pratiquement un an, on travaillait avec ces gens pour faire un projet qui corresponde exactement à... Enfin, exactement. L'idée qu'on se faisait de leur manière de vivre. Et on fait des maquettes, des plans dans tous les sens. Il y avait chaque fois des remarques, des critiques. Puis au bout d'un moment, on arrive à un projet qui était un plan extrêmement chaotique, mais qui avait été validé. Et le plan était chaotique, mais nous intéressait. Bon, finalement, on écoutait et on essayait de répondre à leurs exigences, mais on avait quand même quelques positions qui étaient assez claires sur ce qu'on voulait faire. Et en final, quand le plan a été validé, on a fait un AP dessus sur le projet. Donc on a fait une coque en ductal, donc en BFUP, sur le projet. Et quand ils ont vu le projet, ils disent « Non, c'est pas ce qu'on veut ». On leur a dit « Mais écoutez, on a fait le projet que vous souhaitiez dans l'organisation. L'écriture du projet, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. En tout cas, vous pouvez avoir un avis, mais ce n'est pas vous qui allez dire comment on va dessiner le projet ». Et ils ont admis ça. Ils ont dit « Oui, c'est vrai que bon, on n'est pas spécialiste. C'est l'écriture du projet, ça, c'est votre domaine ». Et on a fait ce projet. Et c'était une histoire extraordinaire. C'était une très belle aventure.
Et depuis, vous travaillez justement sur ce type. J'ai vu que vous travaillez sur des sites de la RATP toujours.
Alors, on travaille avec la RATP toujours. Mais alors, pour la partie de la matérialité, donc on travaille avec le BFUP. Là, on s'aperçoit que ce matériau, il est réputé étanche en ayant des parois de 2 cm d'épaisseur. Et on n'avait pas exploité ça sur la RATP. Donc on s'est dit, le prochain projet, on va travailler avec le BFU pour en faire des panneaux qui ne sont plus du parement, mais des panneaux d'étanchéité. Donc là, on rentre dans une autre complexité. Et on travaille sur une crèche à Paris, un petit bâtiment, où on va faire des panneaux avec un béton fibré et de l'isolation intégrée. Tout ça formant un complexe d'étanchéité. Donc là, c'était une autre aventure, donc assez compliquée, puisque c'était de l'innovation. Donc on a été trouver des petits artisans dans le nord de l'Italie qui ont fait donc, ces préfabrications. Donc on se servait, c'est des coques qui étaient à double courbure inverse, et on se servait de l'isolation comme fond de coffrage. Alors rapidement, ce qui est apparu, c'est qu'on a eu un gros problème, c'est que l'isolation conservait la chaleur, et le béton en cristallisant montait trop en température. Donc on a dû faire des moules réfrigérés, donc on a climatisé les moules pour pouvoir pallier à cette surchauffe. Donc là c'était une vraie étude, c'est-à-dire qu'on a dû arrêter la production, repenser le système, tout ça dans une procédure d'ATEX, c'est une validation pour les assurances pour un projet expérimental. Donc c'est la condition pour pouvoir mettre en œuvre des matériaux nouveaux. Et finalement, donc, on a réalisé cette première avec ce béton fibré étanche avec isolation intégrée. Et puis, on a fait d'autres expériences avec eux. On a fait une passerelle avec eux sur un musée à Tomingerer, une passerelle pour handicapés. Et on a la dernière opération qu'on a fait avec eux, c'est des moules complexes. Alors, en fait, on s'est aperçu que ce matériau était limité quand on le préfabriquait dans une gestion traditionnelle comme du béton normal et qu'on pouvait le projeter. Et donc, on a commencé à faire des moules plus complexes où on faisait une projection, ce qui nous permettait de faire d'intégrer des plissures beaucoup plus sophistiquées que sur un moule où on répand la matière. D'accord. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait pour le centre de formation d'EDF à Saclay.
D'accord. Parmi vos maîtres d'ouvrage, vous avez beaucoup, on voit RATP, Postimo, enfin ce type de maîtrise d'ouvrage assez institutionnel.
EDF, ouais, GDF, la SNCF aussi.
Ouais, et vous avez aussi à votre actif des hôtels de police, c'est ça ?
Des hôtels de police, ouais. Ouais.
Et c'est au niveau des réponses à apporter. Il y a des contraintes, j'imagine, beaucoup.
Alors, l'histoire, elle remonte à assez longtemps. Il y a eu une interrogation sur les commissariats de police à Paris, qui étaient des endroits très...
Obsolètes,
oui. Très mal vécues, à la fois par les usagers et par les flics. Et donc, ils ont cherché à féminiser ces commissariats. Donc, en fait, c'est Dominique qui avait été appelé, plus que moi, pour faire ces commissariats. Et nous, notre idée, c'est que finalement, on devait se sentir dans un commissariat aussi bien que si on allait à un bureau de poste ou un service public. Donc, on a travaillé sur l'accueil dans les commissariats. Donc, on a fait quelques expériences. On en a livré deux. Il y a eu un arrêt brutal parce que on s'est fait. C'était pas assez viril, en fait, comme proposition pour le commissariat. Donc, ça a mis un coup d'arrêt. Et ils sont revenus nous voir quelques années après en disant finalement, ça avait bien vécu, ça était bien perçu. Finalement, c'était
À l'usage,
oui.
Ouais.
Donc,
c'est bien comme histoire.
Donc, on a continué, on a repris, on a recontinué des réflexions avec eux. C'est pas suivi, hein. C'est parfois ils repensent à nous et on répond, mais on n'a pas de relation particulière suivie avec la préfecture ou le ministère de l'Intérieur.
D'accord. Et sur vos ATEX, vous avez un retour maintenant sur la pérennité des systèmes que vous avez mis en place et au point ?
Oui, on a un retour, on suit nos opérations. Sur la mise en œuvre, la DBFUP, c'est vraiment très stable. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème particulier. C'était bien développé. C'était un beau travail fait par Lafarge.
Oui. Et ça peut trouver des résonances ou ça tombe après
Non, mais Alors, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Hein. Il y avait... En France, il y avait Rudy Ricciotti qui travaillait en parallèle sur d'autres applications. Donc, il a fait des très, très belles passerelles, notamment la passerelle du MUCEM qui est en BFUP. Et puis, toute la résine du MUCEM aussi est faite en BFUP. Donc, il travaillait aussi sur ces applications. D'autres l'ont fait aussi. C'est vrai que la question de la matière est aussi très présente dans le travail de Rudy Ricciotti. Il a fait un travail remarquable sur la mise en œuvre du BFUP. On faisait ça en parallèle, d'une façon très différente, plus discrète sans doute.
Donc, D'autres projets dont vous aimeriez parler ?
Oui, c'est vrai que les plus beaux projets, c'est toujours ceux qu'on va faire. Hein.
Peut-être, oui, parler de votre actualité, du coup.
Non, mais ce qui est fantastique dans notre travail, c'est qu'on se projette. Donc finalement, c'est l'idée qu'on développe quelque chose d'avenir. Chaque projet est une aventure. Donc en ce moment, on fait pas mal de bâtiments de bureaux. On a beaucoup travaillé, réfléchi sur des espaces de travail.
Ce qui peut sembler paradoxal pour l'auditeur, puisque on a souvent dit que les bureaux, il y en avait beaucoup. Non ?
Les bureaux, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a peut-être trop d'ailleurs. Après, des bureaux... La manière de travailler a beaucoup évolué extrêmement rapidement. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal cherché à faire des bureaux peut-être moins statutaires et plus des cadres de vie. Donc là, c'est pas nous, hein, c'est une réflexion un peu générale, mais qui est assez compliquée parce qu'il y a, il y a des résistances, il y a des pratiques, il y a aussi un modèle qui existe, c'est-à-dire qu'un bureau, quand on dit bureau, tout de suite, on a une image mentale qui arrive, qui nous précède, qui est difficile
à bousculer.
Mais on a beaucoup travaillé sur des problèmes d'organisation intérieure, donc beaucoup travaillé sur les circulations verticales. Comment éviter la stratification, l'empilement en fait des plateaux, de ces espèces de plateaux anonymes. Donc là-dessus, c'est juste quelque chose qui me passionne, c'est comment réutiliser les normes, comment retravailler notamment les normes de sécurité incendie pour pouvoir faire des escaliers ouverts, décloisonnés, des escaliers ouverts en premier jour. Donc on travaille beaucoup sur ces données. Moi, je travaille beaucoup avec la réglementation, c'est des choses qui me passionnent. Je suis pas un libéral, hein, donc je trouve que c'est bien qu'il y ait une réglementation. Je pense que s'il n'y a pas de réglementation, les architectes ignoreraient la question de...
Ce sont des garde-fous.
C'est, ouais, sans doute des garde-fous, mais je pense que la sécurité, notamment la résistance au feu d'un bâtiment, est une question d'architecture et pas une question de pompier. C'est-à-dire que c'est un travail d'architecture. Et pareil que l'accueil des handicapés, c'est un travail d'architecte, c'est pas un travail, c'est pas une réglementation, une norme étatique, c'est quelque chose dont les architectes devraient se saisir. Pour moi, un bâtiment doit être protecteur et un bâtiment doit être accueillant, et c'est vraiment la base de l'architecture. Donc ces questions sont centrales. C'est pour ça que j'aime bien travailler autour de ces normes. Je pense que ces normes ne sont pas forcément bien faites,
oui.
Mais à partir de ça... On peut commencer à réfléchir déjà. D'abord, il faut les connaître pour mieux les utiliser. Et on peut commencer à réfléchir pour faire des bâtiments plus accueillants et plus protecteurs.
Mmh.
Et avec des meilleurs usages. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et c'est quelque chose qui nourrit l'agence, en fait. Comment travailler à partir de ces données, comment les dépasser, en fait.
Un autre projet ?
Alors, actuellement, on est en train d'étudier une très grosse résidence étudiante à Créteil. Donc, c'est pour 600 étudiants, avec un espace très atypique, un espace circulaire, une grande vie intérieure. Enfin, pour moi, une résidence étudiante, c'est des petites maisons dans une grande maison. Donc, en fait, c'est à la fois l'individu, on est chez soi. On est chez soi, mais c'est assez compliqué à faire comprendre, c'est que les étudiants sont majeurs. Donc... C'est compliqué d'arriver à faire prendre conscience les maîtres d'ouvrage et aussi l'environnement politique, etc., autour de cette résidence. Pour dire finalement, on a affaire à des individus responsables qui vivent comme eux et qui ont à peu près les mêmes aspirations. Parce que dans l'image, un étudiant, c'est un enfant attardé, semi-responsable, on va dire. L'idée, c'est de faire des maisons pour des individus qui ont tous une autonomie et une manière de vivre qui leur est propre. Et puis, en même temps, cette maison, elle a du sens que s'il y a du collectif qui s'installe aussi. Donc, il faut offrir plus que simplement une accumulation de maisons, mais offrir des services, une vie, un environnement pour ce groupe. Alors, 600 étudiants, c'est génial cool. Parce que ça fait une force. Et donc, on peut commencer à réfléchir sur pas mal de services collectifs.
Et vous parlez de maison, parce que c'est vrai que ça s'oppose un peu au cliché d'une résidence étudiante qu'on imagine plus en rapport avec la notion de cellule. Et est-ce que vous arrivez justement dans cette maison ? Est-ce que ça reste symbolique ou est-ce que vous arrivez à réinjecter de l'espace ?
Alors, sur les modes d'habiter, c'est très très compliqué à faire évoluer. Après, l'habitat, quel qu'il soit, c'est pas simplement l'espace privé, c'est la manière dont je rentre chez moi, la manière dont j'ai mes locaux pour mon vélo, pour les poubelles, etc.
Moi, vous arrivez à réhumaniser par l'espace collectif.
Non, mais ce qu'il faut dire d'une façon générale, ce que je dis à mes maîtres, c'est qu'il n'y a plus d'espace secondaire. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'il y a de l'architecture partout. Un parking, ça peut être une porte d'entrée, un hall d'entrée pour tous les habitants. Un local vélo, si on veut que ça marche, il faut que ça soit éclairé naturellement, ventilé naturellement. Si on veut que les gens fassent du tri sélectif, il faut que les locaux ils soient généreux, bien positionnés, etc. Donc on n'est plus en train de hiérarchiser la qualité des espaces, en train de dire bon, on va mettre ça dans l'endroit où on ne sait rien, on ne sait pas quoi foutre. Il faut commencer à se dire qu'il faut donner de la dignité à tous les moments de la vie dans un logement étudiant ou autre. Et ne pas accepter ça, dire qu'il y a des lieux secondaires, c'est dévaloriser le temps passé dans ces lieux. Et donc, c'est vrai que dans la résidence étudiante, l'aspect collectif est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mutualisées et on peut décupler comme ça un certain nombre de choses. Et je pense que cette question de la mutualisation est une question extrêmement intéressante qui nourrit aussi notre réflexion dans le logement. Je pense qu'il y a, plein de choses qu'on ne peut pas se payer tout seul et qu'on peut se payer collectivement. Je prends souvent l'exemple, quand j'ai commencé à travailler là-dessus sur la mutualisation, évidemment, on commençait par travailler sur les laveries. Alors, les promoteurs nous disaient, non, les laveries, ça ne marche pas. On a déjà essayé, mais je disais, mais ça ne marche pas parce que vous les avez mis au troisième sous-sol. Elle me dit, ouais, c'est un peu vrai, mais je dis, mais si la laverie, c'est comme le lavoir et que vous le mettez au centre du village. Déjà, si vous lui donnez le plus bel espace. Si à côté de la laverie, vous mettez un jardin, comme ça, vous allez faire votre linge, les enfants vont dans le jardin, et puis on prend un abonnement à Internet ou à des revues, etc., que ça devient un lieu de vie. Est-ce que ça pourrait marcher? Là-dessus, je leur dis, mais ça vaut combien une machine à laver? Ils me disent, ça vaut 500 balles. Je dis, non, ça vaut pas 500 balles. Ça vaut 6000 euros une machine à laver. Ça vaut 500 euros de lave-linge, 500 euros de sèche-linge et 5000 euros le mètre carré que vous allez vendre. Donc maintenant, si vous me donnez 6000 mètres carrés qu'il y a 100 logements, ça me fait 600 000 euros pour faire une super laverie.
Après, il y a la question de la culture, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très courant. Mais en France, ça ne l'est pas.
Bien sûr qu'il y a la question de la culture, et je ne pense pas que ça soit un modèle aussi qui doit être dominant. Mais je pense qu'on est obligé de se poser des questions un peu différemment.
Oui.
Et ça vaut pour le lave-linge, parce que c'est vrai que la salle de bain qui fait 4 mètres carrés avec le lave-linge, le sèche-linge, etc., le machin qui sèche au-dessus des baignoires, ce n'est pas non plus satisfaisant. Mais ça vaut aussi pour les locaux vélos, ça vaut pour le parking, ça vaut pour l'entrée, etc. C'est-à-dire qu'il y a, je pense que sur la réflexion sur le logement est en panne depuis des années et qu'il faut à tout prix qu'on...
Requalifier tout ça.
Oui, repenser tout ça, certainement. Ouais.
Alors, comment est composée votre équipe?
On est une vingtaine et on a une équipe fantastique. C'est vrai qu'on a des gens qui nourrissent une pensée collective, qui adhèrent, je pense, à cette pensée. Enfin, peut-être qu'ils ne vous diront pas exactement la même chose, mais c'est très performant, ça marche bien.
Ouais. Comment imaginez-vous le futur? Justement, vous parliez de la nécessité de penser le futur. Vous, comment vous le ressentez d'une manière plus globale?
Alors, dans notre métier, en tant qu'architecte, on a un pouvoir d'inflexion. Et c'est vrai que ça se fait peut-être souvent sur des choses un peu ténues, mais qui, en finale, racontent quand même une évolution de notre société. Donc c'est vrai que des questions sur la mutualisation, sur le partage, sur l'environnement, etc., c'est des questions qui nourrissent le débat de l'architecture actuellement. Et chacun dans ses réflexions, son petit travail, sur des préoccupations qu'il pense. Mais tout ça... C'est intéressant et c'est peut-être un peu limité aussi par rapport aux enjeux qui se présentent à nous.
C'est pas suffisant.
Clairement insuffisant, ouais. Ouais. Clairement insuffisant.
Vous n'avez pas beaucoup parlé de paysage et de nature?
Alors, je ne parle pas de nature parce que pour moi, la nature, c'est un concept culturel. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu de nature. J'ai vu des... c'est extrêmement rare d'être dans un état premier. Donc, on est toujours dans des environnements qui ont été travaillés par l'homme. Donc, on construit notre environnement. Même si c'est ténu, même si c'est lié à l'exploitation agricole, c'est quand même des environnements qui sont des environnements humains, construits par l'homme. Après, la question du paysage, il y a une question qui est l'évocation de la nature, qui est par contre... Une injonction, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Comment remettre du vivant dans notre environnement? Évidemment, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, qui peuvent être sur le bâtiment, qui peuvent être autour du bâtiment. Par exemple, cette résidence étudiante que j'évoque, c'est un cercle qui englobe un terrain qui fait un immense patio dans lequel il y a un jardin qui fait environ 4000 mètres carrés au centre de ce patio. Donc le jardin, c'est et l'espace central. Le fait, le vide est l'espace structurant du projet. Alors, est-ce que le vide, c'est la nature? Je ne pense pas. Est-ce que c'est... Mais les espaces extérieurs sont le complément logique des espaces intérieurs.
Vous avez enseigné pendant longtemps?
Oui.
Ouais. Alors, vous pouvez en parler un peu ou... Parce qu'en fait, la question qui suit, c'est quel conseil donneriez-vous aux étudiants en archi aujourd'hui? Donc, peut-être qu'on peut lier votre expérience et la question.
Bah en fait, ce que je dirais aux étudiants, c'est n'écoutez pas les conseils.
Emparez-vous des sujets.
Ouais, c'est ça. Un étudiant doit être avant tout dans la transgression. C'est un moment, c'est pas la transgression pour la transgression, mais il y a un moment très singulier. C'est une possibilité quand on est étudiant de faire des expériences qui n'ont finalement pas énormément de conséquences. Donc il faut absolument se saisir de ces quelques années extraordinaires pour être insolent, pour défricher des sujets hors normes, pour aussi hybrider des contradictions, des éléments un peu antinomiques. Je pense que c'est là-dessus que peut se faire aussi un début de conviction. Et c'est vrai que les conseils généraux, ils sont... Enfin, il faut lutter ça, contre un certain académisme qui revient très, très...
En force en ce moment ?
Très fort en ce moment, oui.
Ah oui. De quelle manière ?
Bah, y a très certainement moins d'utopie et des préoccupations politiques qui sont réelles de la part des étudiants, mais qui sont très atomisées. Donc, la fragmentation cet individualisme conduit peut-être à des expériences personnelles plus limitées.
Donc, on parle beaucoup de collectif, mais finalement, dans les faits, c'est pas ça. C'est ce que vous...
On parle, peut-être qu'on parle beaucoup de collectif, mais on est dans une accumulation de collectifs. On n'a pas de... Les convergences sont difficiles à trouver.
Ouais. Un mot de la fin ?
Un mot de la fin Oui, sur la fragmentation du collectif, je pense qu'il y a des défis qui nous attendent, enfin, comme à toute époque. Mais les enjeux environnementaux, si on veut répondre ne serait-ce qu'à des choses assez concrètes comme les accords de Paris, ça demande un changement de notre société, de mode de production extrêmement profond, qui va bien au-delà de simplement un peu mieux construire.
Oui, d'accord.
Alors après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a envie d'y répondre ou pas, parce que je pense que les efforts sont extrêmement importants, et finalement, peut-être que ça ne vaut pas le coup de les faire. Mais ça, c'est...
Après, peut-être que le naturel va s'imposer à l'homme, c'est-à-dire que tous les problèmes climatiques qu'on va rencontrer vont nous forcer à accélérer les processus.
Sans doute.
Et ça va du coup mettre tout le monde d'accord.
Sans doute. Même si on va subir ces problèmes climatiques, ça sera extrêmement doux pour les Européens. Est beaucoup plus douloureux pour d'autres populations. Et il y aura un décalage pour notre continent, ce qui ne nous poussera pas à agir très rapidement.
Oui, mais c'est à chaque nation aussi de s'emparer de ces sujets, non ?
Absolument. Non, mais ouais. Et je ne pense pas qu'on ait, nous, la réponse, une réponse universelle, justement.
Ceci dit, c'est un sacré défi. J'imagine que pour l'architecte, il y a des choses à...
Pour l'architecte, oui, il y a des réflexions. Mais cela dit, le meilleur projet, le plus performant d'un point de vue environnemental, c'est le projet qui n'est pas construit.
Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que dans les écoles, aujourd'hui, il y a une spécialisation de territorial, enfin urbanisme, etc., paysage, il y a une ouverture vers ces doubles cursus. Et qui, là, vont permettre de sortir justement de cette très lourde responsabilité de l'impact qu'induit le fait de construire. Ouais. En tout cas, de voir les choses un petit peu différemment. Mais c'est en train de se faire.
Oui, bien sûr.
Enfin, en tout cas, dans les Europans qu'on reçoit ici, là, je trouve que c'est formidable, justement, que cette jeunesse... moi, je la trouve militante, hein, avec des caractères affirmés. Oui. Je pense qu'ils vont nous... Ils vont peut-être nous mener la vie dure.
J'espère.
Pour qu'on bouge un peu. Sur cette question, le podcast s'achève. Merci beaucoup, Emmanuel Combarel, d'être venu témoigner.
Merci de m'avoir reçu.
Et à la semaine prochaine, chers auditeurs, pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.